RCF.
Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce 13e numéro de la 7e saison de Côté Ouvert, votre rendez-vous consacré à l'actualité du rugby à 15 sur RCF Pays d'Aude avec la complicité de RCF Pays Tarnais et également diffusé sur RCF Occitanie en DAB+, rendez-vous qui vous est toujours proposé en partenariat avec le site Vibré Rugby. Aujourd'hui, dans notre multiplex entre l'Aude, le Tarn, le Piémont des Alpes, qui a failli ne pas avoir lieu d'ailleurs, mais ça c'est une petite histoire qu'on gardera pour nous, ils ont tous vaillamment répondu dans l'urgence à l'appel. Donc, outre votre serviteur aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, comme vous le savez, notre vénérable préféré, monsieur Christian Mosna. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Au pied des Alpes, il est là, il a bravé encore les frimas de l'hiver, c'est Fred Protin. Salut Fred.
Oui, bonjour Patrick et bonjour tout le monde.
L'indispensable Renaud Sorel en forme olympique est avec nous aussi. Salut Renaud.
Bonjour à toutes et à tous.
Et puis Christian Guittard, celui que vous connaissez sous le sobriquet de Tahiti Bob, nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Christian.
Salut Patrick, bonjour à tous.
Et enfin, il faut un homme derrière la console pour mettre en nom de cette émission, et c'est GG au doigt de fée, monsieur Jérôme Bozon, qui sera avec nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde.
Bon, au menu de la table de Côté Ouvert aujourd'hui, on va faire quelque chose de très très simple puisque nous allons simplement et essayer d'être le plus complet possible en débriefant la première journée du tournoi des Six Nations. Et oui, il ne vous a pas échappé que ce week-end, c'était parti pour le tournoi. On a joué samedi, on a joué dimanche. Et la première journée a livré ses premiers résultats rapidement. Dimanche, la France est allée s'imposer en Italie avec une marge assez limitée, 24-29. Et puis, plus tôt, samedi, il y avait deux rencontres. Le pays de Galles s'est incliné à domicile lourdement face à l'Irlande, 10-34. Et les Anglais se sont aussi inclinés sur leur pelouse, 23-29 face à des Écossais qui ont l'air en forme pour débuter ce tournoi, ce qui nous donne pour l'instant, de manière totalement bien entendu temporaire, un classement avec l'Irlande premier 5 points devant au goal average, second l'Écosse 5 points également puisque ces deux équipes ont validé une victoire bonifiée, tout comme la France troisième 5 points. Ensuite on a deux équipes qui ont un bonus défensif, un point pour l'Italie, un point pour l'Angleterre, respectivement 4e et 5e, et ce sont les Gallois qui ferment la marche avec 0 points. Juste une petite question peut-être pour l'un d'entre vous qui est spécialiste des stats ou qui a un bon historique du tournoi. Trois victoires à l'extérieur lors de la première journée, c'est un peu inédit ça, non? Qui a des données là-dessus? Renaud me dit que non. Fred non plus, Christian encore moins, et Monsieur Mosna. Bon, mais écoutez, nous, on va être humble parce que j'avoue que je n'ai pas vérifié ça. On cherchera ça, et promis, pour le prochain numéro, on vous dira si c'était quelque chose d'inédit ou pas. En tout cas, nous, on va essayer de la débriefer cette première journée. Et on était dans un stade, peut-être un stade irlandais, me semble-t-il, ou en tout cas un stade gallois, mais avec une forte connotation irlandaise. Messieurs, les Irlandais, on l'a dit, qui sont allés s'imposer au pays de Galles, 34-10. Peut-être on va attaquer tout simplement une confirmation. On nous dit que l'Irlande, c'est un des favoris au titre cette saison pour le tournoi, mais peut-être aussi un très sérieux prétendant au titre mondial. Les gars, ils frappent fort d'entrée, n'est-ce pas, monsieur Guittard?
Oui, ils ont été particulièrement impressionnants, j'allais dire, dans la lignée de leurs équipes régionales. Hein, je pense au Munster, je pense au Leinster, qui quand même fonctionne super bien. Donc c'était une belle victoire. Alors après, toujours pareil, il faut se demander si c'était pas aussi une équipe galloise en reconstruction, parce qu'il y avait quand même, on avait fait un peu appel à l'arrière-banc, hein, côté gallois, pour essayer de sauver les meubles avec l'arrivée du nouveau sélectionneur Gatland. Mais en tout état de cause, les Irlandais ont paru très 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 impressionnants, très sereins, une maîtrise ce rugby-là. C'est un rugby millimétré. Pas forcément le plus spectaculaire à voir, mais en tout cas, il est très très efficace et ça interroge beaucoup pour le prochain choc qui aura lieu à nouveau en Irlande contre les Français, avec quand même, mais je crois que on va en parler, beaucoup d'absents côté irlandais, puisqu'il y a quand même une liste qui s'est considérablement allongée.
Fred, tu confirmes ce que dit Chris, c'est-à-dire qu'on va quand même pas s'enflammer parce qu'en face, je vais le dire de manière un peu prétentieuse, ce n'est que le Pays de Galles et on sait que le Pays de Galles, depuis quelque temps, c'est pas fameux, quoi.
Oui, c'est pas fameux, mais quand même, chez eux, devant leur public, moi j'étais impressionné par cette équipe d'Irlande. Hein. Ça va tellement vite, ça joue tellement bien, les joueurs se trouvent vraiment les yeux fermés. Trois actions, trois essais en quoi 20 minutes,
ouais.
C'était remarquable. Je me suis dit, mais à ce rythme-là, ils vont en prendre combien là? Les Gallois, ils sont partis pour en prendre 50, 60. Parce que là, mais ils étaient inexistants, les Gallois. Aucune force, pas de physique, pas d'agressivité. Enfin, il y avait bien un peu d'engagement, mais ils reculaient sur tous les impacts des Irlandais. Mais les Irlandais, ils jouent une vitesse phénoménale. Moi, là, franchement, on a une très, très belle équipe. Alors, on peut se poser la question de la qualité de ces Gallois, mais ça n'empêche que les Irlandais jouent à la perfection. Et moi, je ne sais pas ce que feront les Français dans une semaine, mais je crains le pire. Hein.
Ouais, car Christian, justement, hormis la vitesse haute qualité de cette équipe galloise, ce jeu au pré, là, qui maîtrise parfaitement aussi, peut-être.
Les Irlandais, tu veux dire.
Oui, pardon, pas les Gallois, les Irlandais, pardon. J'étais.
Oui. Le jeu au pré, et puis il tue le match, comme le disait Fred, il tue le match en 20 minutes. Après, curieusement, il ne s'est pas passé grand-chose. Je crois que les Irlandais ont géré tranquillement le truc en accrochant quand même le bonus offensif au passage. Après, bon, les Gallois, je suis inquiet pour eux parce que je trouve que c'est une équipe extrêmement vieillissante. Alors, c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe, on dit.
Ouais, mais il y a un problème de relève là quand même. Hein.
C'est très vieux là. Hein. Il y a un problème de relève. Les équipes de clubs galloises sont quand même pas extrêmement brillantes. Et ouais, c'est inquiétant pour le pays de Galles qui traverse, on va dire, là, je crois, un petit désert.
Renaud, positivement impressionné par les Irlandais, bien sûr.
Ben écoute, le début de match, on avait l'impression que c'était une mise en place. Tu sais, quand on joue en marchant, on répète les combinaisons à chaque attaque.
C'était limpide.
Ben voilà, et quand tu te dis qu'il joue avec un demi d'ouverture, bon, jusqu'à l'année dernière, il joue en marchant, maintenant il joue sans bouger. Donc c'est impressionnant, quoi. Moi, cette équipe, vraiment, vraiment. Ok, j'entends le pays de Galles est vieillissant. Ils sont un petit peu à la rue partout, ce qui est vrai. Il n'empêche, malgré les blessés, hein, parce que tu n'as pas Furlong, tu n'auras pas Gibson Park, le demi de mêlée, Chianili est toujours blessé. Bon, Sexton a pris son énième commotion, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ils sont bons partout, partout, partout. Quoi. C'est pas ils sont bons devant, machin. Ils sont bons du 1 au 23, ils sont bons.
Et c'était particulièrement impressionnant pour rebondir sur ce que tu dis, sur la première ligne. Il n'y avait quand même pas les deux piliers titulaires. Furlong, c'est quand même probablement un des tout meilleurs au monde.
C'est le meilleur droitier du monde.
Je le pense aussi. Et ça ne s'est pas vu. Ça s'est pas vu sur ce match-là. La première ligne a été remarquable, alors que c'est techniquement, c'est les remplaçants en équipe.
Avec 9 mecs, 9 joueurs du Leinster, ça tue aussi le niveau de l'équipe.
Et puis, ils ont une nouvelle troisième. Alors, pardon, excuse-moi, Christian, ils ont toujours O'Mahony en troisième ligne, mais Van der Vlier, ils ont un élevage de trois. Alors, ils élèvent du saumon là-bas et du mouton, et ils élèvent le troisième ligne. Non, mais c'est. Souvenons-nous quand il y avait les Harbour. Ils ont toujours eu des troisièmes lignes, mais monstrueux, monstrueux, monstrueux. Et là, tu as l'impression que tu secoues un pommier en Irlande, il t'en tombe 15. Je suis impressionné. J'ai hâte à samedi, mais je suis impressionné par cette équipe.
Et écoute,
je n'y vois aucun défaut.
On en repart dans quelques minutes de cette équipe d'Irlande, parce qu'on parlera des Français, mais je vous propose d'aller faire un petit tour en Angleterre, parce qu'il y a eu un petit coup de tonnerre, un de plus, face à l'Écosse. Ah, on l'aime, cette hymne écossais. Je crois que c'est peut-être un des plus beaux.
C'est le plus beau.
On y va. C'est le plus beau.
Ah oui. C'est le plus beau.
Que des frissons.
Alors, est-ce que c'est une surprise, les gars, cette victoire des Écossais en Angleterre, ou au final, Monsieur Sorel, ça devient une habitude?
Non, ça fait, je crois, trois fois de rang qu'ils les battent.
Ouais.
Mais ouais. L'Écosse, ils sont bons. Ça y est, ils ont des super trois quarts. Alors, ils ont un gars qui s'appelle Finn Russell qui est capable du pire comme du meilleur.
Ouais, mais il est sur trois alternatifs quand même. Hein,
voilà, mais
quand il a de mauvais jours, c'est catastrophique.
Ouais, mais quand il est sur le positif, c'est très bon. Hogg, pour moi, c'est un des meilleurs 15. Avant, ils avaient une mêlée en carton-pâte. Souvenons-nous, les pauvres, à chaque mêlée, on avait peur pour eux parce qu'ils se faisaient plier en 8. Mais là, ils ont une mêlée. Ils ont les Grey qui retrouvent une. Qui ne sont plus tout en nuance, mais qui retrouvent une seconde de jeunesse. Ouais, il fallait que je la voie. J'avais fait un pari. Mais bon, voilà. Non. Ils sont alors, oui, l'Angleterre, un machin. Un peu dans le creux, mais l'Écosse est une bonne équipe. Est une, je sais plus, l'expert de l'Océanie va nous éclairer, mais ils sont pas passés loin de taper, je sais plus quelle équipe en tournée déjà ou lors des
Blacks contre les Blacks.
Mais ils sont pas passés loin des Blacks, ouais, effectivement.
Ouais,
ils sont
voilà.
Pas passés loin des Blacks. Et puis je crois que ce qui séduit sur l'équipe d'Écosse, c'est son jeu. De toutes les équipes que l'on voit jouer, la France y compris, il faut quand même le dire, c'est quand même le jeu le plus séduisant, ça relance.
Ah, c'est pas la dépossession, hein.
Voilà, c'est ce que j'attendais, relevant, j'attendais ça, parce que là, on voit qu'on peut faire autre chose comme jeu. Alors après, ça gagne côté français, hein, mais le jeu, ce jeu-là de possession, de jeu, de passe, il est super. Moi, je rajouterais dans ta liste de super joueurs, là, moi, j'aime bien leur set à Mitch Weston, là, qui ramasse un nombre considérable de
balles.
C'est ça, voilà. Il est pas beau, mais il est bon. Et donc, c'est des joueurs super. Mais moi, c'est l'équipe. Alors, j'ai toujours adoré cette équipe, pas que pour sa cornemuse, mais c'est une belle équipe. Et puis, voilà, c'est un petit rugby, hein, c'est une petite fédération. On parlait du Pays de Galles tout à l'heure. C'est pas beaucoup plus grand pour les Écossais. Je crois que c'est 4-5 millions d'habitants sur le pays. Donc, c'est une belle performance et c'est enfin, on espère sur ce tournoi, enfin, la confirmation de choses que l'on voyait depuis longtemps et qui semblent se concrétiser.
Fred, séduit toi aussi par ces Écossais, outre le fait qu'ils aient battu les Anglais, et on n'est jamais mécontent quand les Anglais sont battus,
toujours très honnête,
mais cette équipe, elle séduit quand même.
Oui, non, mais elle est séduisante, hein, mais Christian a très bien dit, c'est des joueurs qui aiment jouer au ballon, on sent s'il y a une envie de faire vivre ce ballon, c'est pas de la dépossession, hein, ça c'est clair, hein, puis ils sont intelligents dans le jeu, là encore, ça va vite, hein. Moi, ça sent beaucoup le rugby, quoi. Bon, on dit souvent ça pue le rugby, mais c'est une équipe qui aime les petits coups. Et puis, on a parlé aussi de ce nouveau ailier là, d'origine sud-africaine, là,
du Van der Merwe, ouais.
Van der Merwe, ouais, mais qui est excellent ici. Bon, moi, je connaissais pas du tout ce joueur, mais là, j'ai.
On nous a fait des misères il y a deux ans, je crois, il y a un an ou deux.
Ouais,
ans,
mais je sais pas, je me souvenais plus bien de ce joueur. Mais extraordinaire, hein, donc. Et puis Finn Russell, comme tu l'as très bien dit, Renaud, bah, capable du pire, du meilleur, mais quand c'est au meilleur, oh là là, quelle finesse dans le jeu au pied, c'est remarquable. Moi, c'est un joueur, j'adore. Hein.
Ouais. Voilà. Christian Mosna, il faut se pencher forcément, on te laisse le cadeau final, sur la situation de l'Angleterre, toujours convalescent quand même les Anglais. Hein. Borthwick, là, il ne fête pas super bien sa première à la tête du 15 de la Rose.
Ouais, mais il faut quand même relativiser la défaite anglaise parce que c'était
un
gros match.
Il y a quand même défaite.
On est bien d'accord, il y a défaite et c'est la troisième de rang contre les Écossais en plus. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est le volume de jeu. C'était un match fantastique. Hein. Il y a eu.
On s'est régalé.
C'est le plus beau match des trois très loin devant.
Je suis d'accord avec le 38-38. Vous vous souvenez du match nul 38-38
mais c'était une orgie de rugby.
Voilà, c'était extraordinaire.
Effectivement, les Anglais, ils manquent un petit peu de pragmatisme. Ils n'ont pas su tuer le match aussi, parce que par leurs avants, ils étaient quand même un petit peu dominateurs. Mais les Écossais, avec des ballons de rapine, ont mis le feu par le jeu partout. Alors, les Anglais, je ne les enterre pas encore.
Ouais, j'étais
très content que l'Écosse gagne, hein, comme pas mal de Français. Mais franchement, ils ont une belle équipe, les Anglais. Nous, on va aller à Twickenham. Il faudra peut-être faire attention quand même.
Hein. Ouais, n'oubliez pas que les Anglais sauveront leur tournoi si tu appelles les Français.
Absolument.
Si tu appelles les Français, ils peuvent avoir quatre défaites à côté. Tout ira bien, Madame la Marquise.
Et puis pour aller dans le sens de... Pardon, excuse-moi Patrick, dans le sens de Christian, il y a quand même deux essais qui sont vraiment l'essai du neuf et l'essai de Van der Merwe. Enfin, normalement, on ne passe pas.
Non, ça n'a pas plaqué.
À travers de 4-5 défenseurs, c'était impressionnant. L'essai du neuf aussi est quand même venu d'une action un peu confuse. Il y a quand même deux essais. À niveau international, ça ne devrait pas se faire. Alors, c'est perdu, mais je suis d'accord avec Christian. Clermont et avec Renault contre l'équipe de France, il faudra quand même produire bien autre chose, je pense.
Ouais, justement, et puis il va falloir arrêter de se gausser parce qu'on va passer un petit séjour en Italie là, et il y a quand même des choses à dire sur la prestation de, ah bon de nos Bleus. Ah, il faisait beau dimanche sur Rome au Stadio Olimpico, c'était très très agréable, mais on va être honnête, ce ne fut pas une sinécure pour nos Bleus, puis je salue une fois de plus nos copains du Midol, hein, avec Rome arrangé comme titre en une du Midol pour cette prestation du 15 de France. Peut-être avant de parler des Bleus, moi j'aimerais messieurs qu'on rende un hommage à cette équipe d'Italie. Parce que cette équipe d'Italie, Fred, peut-être tu vas commencer, elle présente un visage très, très différent. Qu'est-ce qui a changé? Alors, hormis ton protégé Ange Capuozzo, que tu chéris particulièrement, on va laisser Ange de côté pour l'instant. Qu'est-ce qui a changé chez ces Italiens?
Eh bien, moi, c'est l'envie de jouer. C'est l'envie de jouer. Vous avez vu un petit peu, ils voulaient absolument relancer les ballons des 22. Mais je crois que c'est aussi cet état d'esprit de vouloir jouer. Je pense que l'entraîneur là, d'origine Néo-Z doit y être pour pas mal. Et puis ils ont pris de la confiance. Ils ont des avants, une troisième ligne intéressante, les deux deuxièmes lignes aussi. Ils récupèrent les ballons en touche. Ils jouent au près. Les joueurs arrivent lancés. Ils récupèrent le ballon. Il y a eu beaucoup de franchissements. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Ouais.
Nous, on n'en a pas fait autant. Hein. Et malheureusement, il leur a manqué un petit peu de clairvoyance au niveau de la charnière. Bon, le numéro 9 qui était un peu naïf quand même sur ses dégagements, mal protégé, le demi d'ouverture.
Ouais, Alan a été fragile. Hein.
Qui a été quand même largement dans ses cordes, à mon avis, parce que c'est quand même un bon buteur, mais là il n'a pas réussi à scorer. Et puis, ils ont un jeu de plus en plus séduisant. Avant, ils tombaient les ballons, ils faisaient beaucoup de fautes. Là, 7-8 fautes, je crois, sur l'ensemble du match. Donc, c'est une équipe qui commence à rentrer dans des standards, dans des statistiques intéressantes. Donc, moi, j'aime bien cette équipe-là. Bon, Ange, bien sûr, mon chouchou.
Qui nous a fait un bel envol de linge, une fois de plus.
Bien sûr.
Monsieur Guittard, moi, je résumerais presque ce renouveau avec un joueur, c'est peut-être maladroit, mais ce numéro 8, Calonne, qui m'a quelque part impressionné dans sa maîtrise du jeu et quelque part cette envie de ce 8 de devant global qui a quand même été souverain face aux Français. Quoi.
Oui, ben on revient à ce qu'on disait sur l'Écosse. Et ce qui est intéressant là, c'est que sur ce premier match, on a l'impression qu'il y a deux philosophies qui sont en train de se mettre en place. On a quand même un jeu d'équipe de France, de dépossession. C'est un petit peu ce qu'on retrouve sur d'autres équipes. Et là, on a vu une équipe d'Italie qui garde le ballon. Je crois que sur les stats, c'est eux qui ont eu le plus de possession sur le match. Donc, le 8 de devant, il est dans ce jeu-là où on essaie de vite rester debout, d'essayer de jouer. Après, c'est intéressant aussi de voir que le point fort de l'équipe de France, qui est le ruck, cet arbitrage-là, il n'a pas voulu le favoriser. Alors moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je sais qu'on va peut-être en parler, ça fait pester, mais ça favorise ce jeu. Au final, je pense que ça favorise l'attaque. Et du coup, dans ce jeu d'attaque, j'ai l'impression que les Italiens se retrouvent avec des joueurs de qualité, Fred l'a dit, et donc ça a fait un très beau match et un très beau match que les Italiens méritaient de gagner.
Ouais, Renaud, justement, la conquête, parce que les Français, on le dit, il y a victoire, certes, à 5 points au compteur, dans les clous, on y est au niveau comptable, mais nous, on est peut-être un peu resté sur notre fer, alors peut-être qu'on est trop aussi exigeant avec ces Bleus, on le rappelle, qui sont quand même sur leur 14e victoire de rang, hein.
C'est, ouais, statistiquement, tout à fait, ouais.
C'est quand même intéressant, mais moi, il y a eu, entre autres, hein, la conquête, je les ai trouvés en dedans en matière de conquête, alors c'est quoi, un problème d'envie? Est-ce que c'est un problème de fatigue? Parce que des joueurs ont fait comprendre quand même par des petits messages qu'après Cap-Breton, ils étaient déjà un peu émoussés par la fameuse haute intensité là, que leur impose Galtier. Comment tu le vois, toi, cette faillite en conquête? Faillite, j'exagère, mais...
Il se murmure dans les milieux autorisés que la préparation à Cap-Breton a été très, très intense dans le but d'avoir, aujourd'hui on te calcule des pics de forme, ouais. Un pic de forme samedi prochain à 15h16.
Voilà. Et pas 17, hein. Pas à 17, bon, les gars.
Donc,
mais voilà. Ça commence à 15h15.
Ouais,
même voilà, c'est des signes, là c'est
voilà,
bon.
Voilà. Donc, voilà, 15h15 et 30 secondes, a priori, ils seront au top. Bon, voilà, c'est ce qui se dit. Écoute, de toute façon, on sera fixé dans une semaine. Enfin, dans moins d'une semaine, déjà, on aura vu. Problème d'envie, si t'as pas envie quand tu joues un match international, là, j'y crois pas une seconde.
On va en revenir après.
Individuellement, il y a des joueurs qui
rapidement, alors, parce que le coup
ouais, qui, qui ne sont pas au niveau devant. Je pense qu'on va en parler après dans l'optique du match contre l'Irlande et qu'est-ce qu'il faut changer. Mais voilà, mais t'es dominé devant. Alors il y a ce jeu au sol effectivement où t'as pas tes gratteurs comme Marchand n'ont pas pu avoir leur rendement habituel. Mais t'es dominé devant, tout simplement.
Monsieur Mossin, justement, puisque Renaud dit qu'on est dominé devant, est-ce que ce fait d'être pas à ton aise devant ou pas jouer à ta main, ça explique aussi ces fautes qui ont sanctionné l'équipe de France et donc cette indiscipline, ou en tout cas, parce que c'est un mal récurrent quand même, la tournée d'automne, on avait quand même déjà été pas mal sanctionné. Au final, quand même 18 fautes, je le rappelle, on est loin des standards internationaux, on tourne plutôt normalement à 9-10 fautes par match. On prend un jaune, un essai de pénalité, qui au final, le middle l'a bien analysé et moi je trouve, j'ai lu la brève aujourd'hui. Sur l'appli, très bien faite d'ailleurs, entre parenthèses, l'appli du Midi Middle. Le jaune est mérité. Donc, Christian, l'indiscipline peut-être aussi conséquence de fait que tu n'es pas à ta même, une fois de plus, j'y reviens, dans la rencontre.
Il y a l'indiscipline, mais qui vient aussi peut-être de trop de décontraction, parce qu'on marque un essai assez facile, puisque les Italiens nous donnent gentiment un essai entre les poteaux.
D'entrée,
on s'est peut-être mentalement, on a pensé que ça allait être facile. Donc, on s'est pas engagé comme il aurait fallu. Et devant, la seconde ligne avec Ruggia, là, qui a été énorme, les deux frères Canonet, la première ligne qui a rivalisé, voire même dominé par souvent côté Antonio, c'était moyen. Donc, on s'est retrouvé vraiment contre un mur. Heureusement pour la France, les Italiens ont quand même une grosse lacune, c'est leur sortie
de camp. C'était catastrophique.
Je crois qu'ils perdent le match là-dessus.
Merci le 9. Hein.
Merci le 9. Hein, voilà, ils ont, je pense qu'ils auraient eu un 9 simplement moyen. Je pense qu'on aurait même perdu ce match. On peut refaire le monde, mais avec peut-être Garbizzi à la place d'Alan et un autre numéro 9, je ne sais pas si. Dans leur effectif, il y en a un autre, mais celui-là, il était particulièrement mauvais. Donc voilà, moi je crois que c'est surtout un manque d'attention. Je ne condamne pas les Français encore, j'attends de voir l'Irlande.
Fred, au manque d'humilité, je pense qu'il faut, il faut dire...
Fred, au-delà du manque d'humilité ou du manque de concentration, moi j'ai trouvé qu'au final, ça rendait, c'est le sentiment que j'ai eu, parce que je me plante complètement, un manque de liant, c'est-à-dire qu'on a eu des initiatives individuelles. Le collectif était un peu en panne. Est-ce que tu l'as vu ça aussi, ce collectif en panne?
Oui, bien sûr. Je trouve que ça fonctionnait pas comme d'habitude. Les ballons circulaient pas aussi vite. Avec des joueurs, moi, que j'ai trouvé un peu lents, Greg Aldrit, qui arrivait pas à percer. Dupont, qui a fait du Dupont par moment, mais en même temps, il n'arrivait pas à insuffler, à mettre de l'énergie, à mettre un peu de son équipe dans le vent, dans l'avancée. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a le premier contest réussi à la 70e minute. Alors que d'habitude, on va gratter les ballons très vite. Et là, rien. Je ne sais pas pourquoi, franchement.
Optique, les garçons, vu que le chrono tourne, on est tous conscients, on l'a dit tout à l'heure, qu'en Irlande, ça ne sera pas la même musique, ça ne sera pas la même mayonnaise, ça c'est évident, notamment en plus en termes d'intensité et en termes de réalisme, puisque vous l'avez dit, les Irlandais ont tué le match à la deuxième minute face aux Gallois, et eux, ils ont des occasions, ils les ont mises au fond. Donc par rapport à ça, est-ce qu'il faut s'attendre d'abord à des modifications dans le 15 de départ? Il nous reste 2 minutes, donc il va falloir être très rapide sur les interventions. Et in fine, est-ce que cette victoire en demi-teinte, c'est pas une bonne piqûre de rappel ou un bon coup de pied au cul, vous choisirez comme vous voulez, pour dire attention les gars, on reste en éveil, parce que même si on a 14 victoires de rang, rien n'est acquis. Christian, le Tahiti Bob.
Oui, tu l'as résumé. Moi, je suis persuadé que ça va être une piqûre de rappel, ça c'est sûr. Les Français, ils aiment bien ça. Ils ont quand même toujours besoin de ça. Alors, on pensait qu'ils avaient un petit peu gommé ça avec Galtier. Mais on voit bien que c'est pas encore le cas. Donc, je pense qu'on verra une autre équipe prête au combat, un petit peu un match attendu comme celui contre l'Afrique du Sud. Je pense qu'on verra un match de ce style-là. Après, pour les remplacer, intéressant. Moi, je pense que Galtier, il aime bien garder ses joueurs. Il n'y a pas beaucoup de solutions non plus. Au final, quand on regarde bien, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde à remplacer à la place d'Antonioki, à la place de Fama ou Willem Seki, à la place de Dupont, quoi. Donc voilà, je ne suis pas très sûr qu'il y ait beaucoup de remplaçants, mais je pense que ça sera un autre match.
Renaud, 30 secondes, est-ce que tu vois, toi, des évolutions possibles sur ce 15 où ça va être très compliqué de faire tourner beaucoup de joueurs?
Ouais, ils seront plus éveillés. Peut-être, pourquoi ne pas faire débuter Taofi Fenua et garder Willem C, qui n'est pas, je pense, revenu en plein. Et après, c'est au niveau de la troisième ligne. Alors, indépendamment du match raté d'Olivon, parce que je pense que le garçon est assez intelligent pour comprendre qu'il a raté son match. Mais, et puis, aujourd'hui, en troisième ligne, ce n'était pas à 200%. Vu à n'importe quel niveau, même en top 14, ça passe pas, c'est rédhibitoire. Et face à l'Irlande, il faut trois chiennes de ferme. C'est-à-dire que même si Olivon, alors je sais pas vraiment véritablement l'état de forme de Cross, mais moi aujourd'hui j'aurai tous mes troisième lignes à 200% de leur capacité. En Irlande, je mets Jelonge, Cross et Aldrit, parce que là c'est Ratier contre Ratier là. Hein. Mmh. Ça va être une bataille de cagnottes et ça va être franchement, il va falloir vraiment, ça va être un match de chienne de ferme, une bataille de rock infernale, et il va falloir vraiment des gens à leur plus haut niveau.
Hein. 10 secondes chacun, Christian Mostin, pronostic France ou Irlande samedi. Tu n'as pas le choix.
Irlande.
Fred.
Irlande, sans hésiter.
Monsieur Christian Guittard.
Irlande aussi, ouais.
Monsieur Sorel.
Ouais, je vois l'Irlande.
Et moi, je vois la France. Ah, sur ce, c'est un très, très bon appétit. On n'a pas interrogé Jérôme, mais ça sera on verra ça dans la prochaine émission. Nous, on souhaite un bon appétit. On vous dit merci pour votre attention. Et dans 15 jours, parce que cette fois-ci, je serai réactif sur le calendrier. Salut à tous et à très vite sur RCF.